Jason Stearns, bonjour. Les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont convenu la semaine dernière à Luanda d'un cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Le M23 dit ne pas être concerné par ce cessez-le-feu. Qu'en pensez-vous?
Tout d'abord, c'est pas seulement le M23 qui dit qu'ils ne sont pas concernés par le cessez-le-feu. Le gouvernement rwandais aussi a clarifié qu'ils n'ont pas signé un cessez-le-feu à Luanda. Il s'agit seulement d'une feuille de route. Et je pense que c'est important parce que le Rwanda nie tout soutien à l'M23. Et signer un cessez-le-feu, ça impliquerait que, implicitement, qu'ils avouent d'avoir soutenu l'M23. Et donc pour eux, ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est seulement une dénonciation de la violence et un désir que chacun se retire selon l'accord ou le processus de Nairobi à leur position d'auparavant. Je pense alors que le Rwanda ne va certainement pas avouer un soutien à l'M23. Je pense que le Rwanda va tout simplement dire qu'il dénonce la violence, mais pour eux, c'est la violence de toutes parts. Ils dénoncent la violence du gouvernement congolais, ils dénoncent la violence de l'M23 et ils souhaitent un accord ou un issue politique, des accords politiques pour résoudre la situation actuelle. Et donc, je ne pense pas certainement que ce soit un aval. C'est ça un peu la version du gouvernement congolais. Ils disent que la feuille de route de Luanda signale un aval implicite d'un soutien rwandais à l'M23. Ce n'est pas ça mon interprétation de la feuille de route. Ce que moi je vois dans la feuille de route, c'est surtout le gouvernement congolais qui a accepté les positions données par le Rwanda. Dans la dénonciation de la haine, le retour des réfugiés congolais qui sont au Rwanda, la dénonciation de toute collaboration avec l'FDLR, etc. Et donc, je n'y vois pas un aval implicite d'un soutien à l'M23, pas du tout.
Comment la RDC peut-elle capitaliser cette avancée pour faire cesser tout soutien au M23?
La feuille de route, pour moi, ce n'est rien de nouveau. Donc, tout ce qui est inclus dans la feuille de route, tous les points de la feuille de route sont les positions d'auparavant. Ce sont des positions qui sont données depuis très longtemps, surtout du côté rwandais. Donc, c'est-à-dire que chaque fois, le Rwanda insiste beaucoup sur la légitimité des griefs de l'M23, même s'ils ne disent pas qu'ils soutiennent l'M23, notamment la présence des réfugiés congolais, surtout des Tutsis, qui sont au Rwanda, qui doivent rentrer en RDC, surtout aussi la collaboration avec l'FDLR, etc. Donc, pour moi, les positions données dans la feuille de route ne sont pas du tout surprenantes. Je pense que l'atout, surtout, qui existe dans le processus de Nairobi comme dans le processus de Luanda, c'est un atout diplomatique. C'est-à-dire, les deux processus impliquent deux pouvoirs régionaux, notamment l'Angola et le Kenya, qui peuvent peser sur les différents partis dans le conflit, surtout le Rwanda. Et c'est ça, je pense, que la nouvelle donne. C'est-à-dire que l'implication du Kenya, qui a des intérêts économiques, surtout dans ce qui se passe à l'est du Congo, comme aussi l'Angola qui a des intérêts politiques, économiques aussi en RDC, ça pourrait aider, je pense, à résoudre la crise. Donc cette attention, cette implication de ces pouvoirs régionaux, c'est ça, je pense, le grand atout de la situation actuelle.
En quoi la feuille de route de Luanda peut-elle engager le M23 qui n'était pas parti à cette réunion et ne reconnaît un appui du Rwanda?
Je pense que le grand travail qui se fera, ce n'est pas un travail qui se fera en public. C'est un travail derrière les coulisses, un travail politique de pression, surtout sur Kigali, un travail de recherche et d'investigation pour démontrer le soutien du Kigali, peut-être aussi de Kampala, pour la M23. Cette pression et ces investigations peuvent aider, je pense, à diminuer le pouvoir et la menace de la M23. En même temps, je pense qu'il est important de ne pas oublier, je pense qu'on a la tendance d'oublier, que la raison pour laquelle Kinshasa fait face à maintes reprises à des rébellions à l'est du Congo, c'est à cause de sa propre faiblesse. Et donc, je pense qu'en même temps qu'on est en train de se focaliser très légitimement sur les menaces qui viennent de l'extérieur, il faut aussi regarder les propres faiblesses de l'armée congolaise. N'eût été, je pense, que ces faiblesses, on ne serait pas dans cette situation.
Jason Stearns, merci.